C'est parce que Radio Capuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux éditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Monsieur Bunia Edumbo, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous savez, acquérir un terrain et construire une maison est le rêve de chaque personne. Et cependant, ils sont nombreux à avoir acheté des lotins de terre sur des sites non encore lotis officiellement. Et ces espaces sont déclarés plus tard anarchiques par les autorités. Et aussi, dans ce cas, surgissent souvent des conflits fonciers interminables. Alors, à ce jour, quels sont les sites appropriés et quelle est la procédure légale à suivre pour acquérir un espace, un lotin de terre en bonne et due forme?
Oui, merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier une fois de plus pour pouvoir faire comprendre à la population la procédure et la meilleure façon de pouvoir acquérir un lotin de terre. Donc, la seule procédure, c'est d'acquérir auprès du ministère des Affaires foncières lorsqu'il y a un lotissement établi en bonne et due forme. Donc, établi en bonne et due forme, ça signifie quoi? Ça signifie en aval. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat donne ce que nous a donc un avis favorable par rapport au plan d'aménagement et par après on transmet le dossier au niveau du ministère des Affaires foncières où les ministres, ayant donc le ministre, signe un lotissement, crée un lotissement en bonne et due forme, signe un arrêté créant le lotissement en bonne et due forme.
Mais on n'a jamais vu les annonces.
Bon, voilà pourquoi pour le moment nous venons, il y a de cela plus de 2 ans. Nous venions de créer ce que nous appelons les services de renseignement dans chaque circonscription. Pour la ville de Kinshasa, les 6 circonscriptions, il y a les services de renseignement qui sont là. Donc, dès que vous arrivez au niveau de toutes les circonscriptions concernées, vous voyez, donc les conservateurs ont été inscrits pour ça. Il y a les bureaux chargés de renseignement pour pouvoir renseigner au public s'il y a des lotissements en bonne et due forme. Il y a des cas où, donc, nous sommes bel et bien dans un quartier qui a déjà été loti. Donc, ça, nous sommes dans le deuxième cas. Un quartier qui a été bel et bien loti, où il y a déjà des maisons qui sont construites là-dedans. Et il y a déjà des titres qui ont été établis. Dans ces cas-là, quand vous voulez acquérir un terrain auprès d'une personne qui habite, qui a déjà sa parcelle, il vous brandit le titre qu'il a. Si il a un certificat d'enregistrement qui est les derniers titres par excellence, vous venez avec ça, vous venez vérifier au niveau de la circonscription foncière, donc là où est situé l'immeuble, donc la juridiction compétente, là où est situé l'immeuble que vous voulez acquérir, pour pouvoir vous renseigner si ce certificat a été établi en bonne et due forme. Et si
Le vendeur ne va pas vous donner tout de suite les documents.
Non, il ne va pas vous donner les documents. Soit il peut vous faire une photocopie de son certificat d'enregistrement s'il a confiance à vous, soit il vous donne tout simplement les références, donc le volume folio, donc ce que nous appelons l'identification de ce certificat d'enregistrement. Vous venez avec ça et vous vous renseignez. Donc, le bureau renseignement vous ramène auprès du chef de bureau enregistrement et auprès des archives et vous vérifiez si ça a été établi en bonne et due forme. Et dans le cas où c'était au moment où donc la personne qui veut vous vendre a un contrat de location, donc parce que c'est le premier titre qu'on établit, a un contrat de location, venez aussi avec ça pour pouvoir vérifier. Là, les affaires foncières se portent garant pour pouvoir vous dire si ça, le document qui est en face de vous, en face de la personne que vous venez vous renseigner est vrai ou pas.
Alors, qu'est-ce qui se passe souvent dans la ville? C'est que la vérification n'est pas bien faite?
Parce qu'il y a un adage qui dit la confiance ne suit pas le contrôle. Donc, vous voulez acquérir, vous voulez mettre votre argent là-dedans, allez vous renseigner auprès des services compétents qui sont les services des affaires français. Ils vont vous dire effectivement le certificat qui a. La parcelle que vous voulez acquérir, cette parcelle-là est vraiment couverte par un tel titre, voilà, et au nom de X.
Voilà, et si par exemple vous voulez acheter, quelqu'un veut acheter une parcelle, mais c'est un héritage, le papa n'est plus là, la parcelle est gérée par les enfants, maintenant à ce moment-là, la procédure est différente, j'imagine.
Oui, et il faut vérifier si le défunt, donc le déculisse, avait un titre. si le dépouilleur avait un certificat d'enregistrement, vérifier si la succession a déjà été ouverte et vérifier si effectivement le métier qui est en face de vous a été, c'est le liquidateur qui a été désigné. Donc, en bonne et due forme.
Et c'est qui un liquidateur?
Bon, le liquidateur par rapport c'est la personne que la famille essaie un peu de dire, voilà, c'est lui qui va nous représenter, qui va représenter nos intérêts par rapport à telle parcelle. Mmh. Il y a un titre. Donc, le tribunal va accorder, après ouverture de la succession, va désigner la personne qui sera, donc qui va représenter tous les intérêts de tous les héritiers. Là, vous êtes en bonne et due forme vérifié, donc dès que vous avez, si la succession a été ouverte et le monsieur qui est en face de vous, c'est le véritable liquidateur, et avec plus de précision aussi, c'est d'obtenir tout au moins la signature de tous les héritiers. Donc ceux qui sont co-héritiers, donc co-héritiers par rapport à la parcelle que vous voulez acquérir.
Donc, ils doivent apposer leur signature.
Ils doivent apposer leur signature. Donc ça c'est en quelque sorte une garantie de plus.
Parfois, ça arrive, vous négociez avec l'aîné, oui. Après les petits frères, les petites sœurs qui sont en Europe s'opposent et ça devient compliqué.
Oui, oui, ça peut arriver que non, il a été désigné liquidateur en bonne et due forme, mais il essaie un peu de voir, vous savez, les hommes sont parfois incontrôlables. Mm. Bon, il arrive qu'il cherche aussi à contourner les intérêts des autres héritiers. Mm. Là, vous aurez à vérifier, donc une garantie de plus, vérifier si tous les autres héritiers vous ont signé. Mais dès qu'il a été désigné liquidataire, je pense, il a la conscience, la personne a la conscience de pouvoir représenter les intérêts de tous les co-héritiers.
Voilà, à ce moment-là, quels sont les documents qu'il faut exiger?
À ce moment-là, ils ont un certificat d'enregistrement parce que la mutation après décès, ça se fait sur base des jugements d'investiture. Donc, le conservateur, dès qu'il reçoit le jugement du tribunal, établit donc au mythe, annule le certificat qui était au nom du dépouillus, le mythe au nom de tous les héritiers et donc représenté par les liquidateurs, tout, mais il prend le soin de les mettre tous là-dedans. Donc là, vous allez acquérir cette parcelle en bonne et due forme.
Oui, ça c'est la procédure à suivre, mais généralement ce qui se passe c'est sur le terrain, c'est parfois c'est autre chose. Ce sont les chefs coutumiers qui font la loi et c'est eux qui distribuent les terrains, les ayants droit coutumiers. Et parfois ils vendent une parcelle, un terrain à une personne X. Après quelques temps, la même parcelle est vendue à une autre personne et il y a beaucoup de confusion dans les domaines, monsieur Lumière.
Oui, effectivement, c'est nous. Je ne pourrais pas vous dire que non, nous avons, en quelque sorte, nous avons baissé le bras. Mais ça, c'est, en quelque sorte, donc, c'est les talons d'Achille aussi, avec les droits coutumiers. Sur le plan des droits, dès l'entrée en vigueur de la loi de 73, les ayants droits coutumiers ne sont pas de pouvoir concédant. Seul l'État est le propriétaire de tous les terres, de toutes les terres. Il le fait par l'entremise de services qui sont appropriés.
Mais ça, c'est l'État, les chefs coutumiers disent que c'est eux les propriétaires des terres.
Non, non, ils ne sont pas propriétaires. Bon, entre guillemets, nous pouvons les appeler comme sentinelles d'une. Mais ils ne sont pas. Une sentinelle ne peut pas être le propriétaire de quelque chose. Si vous avez votre parcelle, vous vous dites, bon, ça va, dans cette parcelle ici, je mets une sentinelle qui va commencer à garder pour moi cette. Donc là, cela ne peut pas, une sentinelle peut rester même pendant 100 ans, mais cela ne lui donne pas la qualité d'être propriétaire. Donc nous disons en quelque sorte, les ayants droit coutumiers, comme nous les appelons dans les jargons fonciers, c'est en quelque sorte ce sont des sentinelles que l'État a pu mettre pour pouvoir donc contrôler son domaine foncier. Mmh. Ce qui arrive, c'est souvent par ignorance, et entre guillemets, l'État ferme les yeux pour accepter cette irrégularité. Donc là, nous concédons, l'État accepte cette irrégularité. Les ayants droit coutumiers ne sont pas les autorités compétentes en matière de gestion des terres du domaine privé de l'État. Ce ne sont pas les autorités compétentes. Mais, entre guillemets, nous acceptons pour essayer un peu de voir qu'on n'est pas filtré, surtout au niveau de Kinshasa, les communautés qui entourent la périphérie de Kinshasa. Vous avez notamment les communes urbano-rurales de Maluku, Nsele, vous allez vers Mongafula. Les communautés qui sont là, les villages qui entourent la ville de Kinshasa, et avec l'extension de la ville, Et par manque de lotissement, la population se rabat auprès de ces endroits coutumiers-là, pour dire, voilà. Mais la plupart des cas, nous recevons, c'est une source de conflits terribles, ce que nous avons. Ça, au moins, ça nous amène au moins 40% des conflits, quand nous faisons la statistique des conflits.
Pourquoi? Parce que ces endroits coutumiers ne sont pas...
Non, aucune structure. Il n'y a pas les CADES, qui est le service compétent pour faire l'inventaire de toutes les parcelles. Ils n'ont rien comme CADES, ils n'ont rien comme...
mesurage, bornage.
Oui, ça arrive parfois, ils s'arrangent parfois avec, vous voyez, nous avons créé une école du CADES chez nous. Quelqu'un peut faire l'école du CADES au niveau des affaires français, et lorsque la fonction publique ne l'embauche pas, il peut tomber entre les mains de ces endroits coutumiers. Mais tu vois, avec un niveau, au lieu de pouvoir le perfectionner au niveau du service, avec un niveau très bas, donc il est entre les mains de ces coutumiers-là, ça c'est terrible. Avec comme conséquence, une parcelle, donc quelque là où on a déjà accordé à une autre personne, on peut accorder ça à deux, trois, voire même cinq personnes.
Ça, c'est
entraînant comme conséquence des conflits interminables, comme vous venez de le dire. Donc ça, et au niveau des affaires françaises, on ne sait pas résoudre un tel problème. Nous nous rabattons sur les documents, entre guillemets, les documents que, donc, les actes de vente, tout ça que les endroits coutumiers leur donnent. Mais avec comme conséquence aussi, ce sont pour la plupart des actes falsifiés. Il peut arriver que non, il a vendu une parcelle à 1000 dollars à Jody. Et moi j'arrive, M. Dunia arrive, il tripote un peu avec M. Dunia, je lui donne 4000 dollars, il vient, il antidate mon acte de vente avec comme conséquence, donc moi je deviens le premier et toi tu deviens le second. En réalité, c'est toi qui étais le premier. Donc c'est ça. Alors, s'il arrive à ce que vous obtenez ça et vous n'avez pas le feeling de pouvoir aller aux affaires françaises pour que la parcelle soit cadastrée, vous restez comme ça sans document et vous voyez deux, trois personnes saisir, donc vous commencez à faire des discussions interminables.
Bien. Vous avez des préoccupations, vous avez des questions, appelez-nous dès maintenant au 081-890-6394. Monsieur Denis est là pour vous rendre service, pour répondre à vos préoccupations.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, paroles aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Comment acquérir un terrain en bonne et due forme? Monsieur Dunia, il arrive, vous êtes directeur chargé des contentieux au secrétariat général du ministère des Affaires Foncières. Il arrive parfois que les gens, on apprend qu'il y a un terrain qui est loti, les gens accourent, ils achètent, ils commencent les travaux. Après un certain moment, c'est l'autorité, l'État qui vient, non, c'est un site anarchique, donc c'est des constructions anarchiques, et puis on casse tout. Et ça, ça décourage beaucoup les récurrents.
Merci beaucoup pour cette question-là. Si le lotissement a été créé en bonne et due forme, ça signifie quoi? Donc la création de ce lotissement a suivi toute la procédure, c'est-à-dire nos amis de l'urbanisme ont donné un avis favorable par rapport au plan d'aménagement, donc par un arrêté, et les affaires foncières créent le lotissement en bonne et due forme, donc le ministre signe un arrêté créant le lotissement, et les travaux commencent. Et lorsque l'État constate que non, qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, et l'État le fait par la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc là, effectivement...
Mais pourquoi l'État réagit en retard?
Non.
Parce que les gens ont déjà les travaux sont suffisamment avancés.
Non. Si ça a été créé en bonne et due forme, ça peut arriver. On est des hommes, ça peut arriver que quelqu'un qui a initié le lotissement peut se tromper quelque part. Si ça a été fait en bonne et due forme, là, si l'État constate effectivement qu'il y a eu des irrégularités, et j'aimerais récupérer cette partie-ci, probablement pour un intérêt général, tous ceux qui sont dans ce site créé en bonne et due forme doivent être indemnisés par la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'État, nous le faisons presque. Donc l'État vous appelle, on vous explique, on vous dit voilà ce qui s'est passé, et pour l'intérêt général, nous devons récupérer le terrain ici. là, l'État ne fait pas procéder d'expropriation pour positivité publique. Et vous êtes la indemnisé.
La personne va évaluer déjà les dépenses des gens.
Oui. Nous avons les experts. Nous avons les experts immobiliers. Ces experts formés au niveau de l'IBTP viennent, ils vont faire les travaux. Mais lorsque vous constatez que non, ça a été sous-évalué, nous avons des discussions et on obtient, on vous donne la valeur vénale exacte par rapport à ce que vous avez mis là-dedans. On prend toutes ces choses. Mais lorsque nous sommes bel et bien dans un site anarchique, à ce propos, ce sont les ayants droit coutumiers qui vous ont donné. Et l'État, le plan d'aménagement de l'urbanisme dit que non, ça, c'était prévu à ce qu'il puisse avoir des industries ici. Et l'État, effectivement, veut mettre des industries là-bas. Là, c'est némo auditur, comme nous disons nos juristes, némo auditur. Donc, ce qui fait que non, l'État vient récupérer ce qui lui appartient.
Bien.
Donc,
monsieur, il y a deux auditeurs en ligne. Jeff Wombe nous appelle de Kinshasa et Jules Kabongo, et il est également à Kinshasa. Jeff Wombe, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, vrai, ça va. On m'écoute l'esprit d'une parcelle, dans les investissements, bien établi à bonne existence. Aussi, je voulais savoir aussi, bon, combien coûte le prix de bornage? C'est un intérêt à me tenir. Je voulais savoir, le service des affaires françaises pour les ateliers, ça fait coûter combien? La troisième question, ça concerne, les maisons. Il y a des maisons que un ministre a déclaré des maisons sans maître, bien qu'il y avait des titres bien établis. Alors, comment justifier cela?
Bien, merci Jeff Wombe. Jules Kabongo est également à Kinshasa. Bonjour Jules.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre préoccupation Jules?
Bon, moi je voulais demander à votre invité, je l'ai salué d'abord. Bon, il a dit que les jeux quotidiens ne sont que des sentinelles. Comment un chef coutumier, en même temps il a dit que les chefs coutumiers peuvent vous offrir un acte de vente. Comment un sentinelle peut vendre quelque chose et que l'État puisse reconnaître ça comme un document valable pour avoir le reste des documents? Ça c'est ma première préoccupation. Oui. Et puis la deuxième préoccupation, une concession qui a été vendue par le même chef coutumier. Après il vient vendre le même terrain à une autre personne avec une date intérieure à la date que l'autre, le premier acquérant a eu.
Oui.
Bon, est-ce que si on portait plainte contre le chef coutumier là, ou bien on peut porter plainte contre l'État qui a accepté que quelqu'un qui n'est pas propriétaire puisse vendre quelque chose qui n'appartient pas en tant que sentinelle? C'est ça ma deuxième préoccupation.
Merci, Jules Kabongo. Benjamin Belindé nous appelle des commandes dans la province orientale. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, jeudi. Alors, moi, je voulais poser aussi quelques préoccupations à notre invité. Alors, je voulais lui faire un peu une historiette concrète qui s'est passée dans notre milieu, ici, là où je suis à commande.
Oui.
Il y avait, dans une famille composée du père, mère et de petits enfants, il y avait trois enfants, tous sont, de façon moins de 6 ans.
Oui.
Alors, il y a peut-être trouvé un cas là où le père de la famille, là, était décédé. Et puis, ce père-là avait son frère, donc dans la même maison. Alors, après sa mort, le frère-là maintenant a dominé la parcelle. Il a dû vendre même la parcelle à question et les enfants sont restés à des bandades. Alors, j'aimerais maintenant savoir, au cas où ces petits enfants-là vont un jour grandir, puisque la loi déclare clairement que ce sont les enfants qui sont les premiers héritiers du bien du papa. Alors, au cas où ces enfants-là grandissaient un jour, c'est qu'ils arrivaient à réclamer les droits de leur parcelle, qu'est-ce que l'État pourrait faire?
Merci Benjamin, monsieur Dunia.
Oui, commençons d'abord par notre ami Jeff
Wombe.
Oui, sa première
préoccupation. Combien coûte une parcelle? Voilà,
effectivement, lorsque le lotissement a été créé en bonne et due forme, l'arrêté fixe le prix de mètre carré dans ce lotissement-là. Donc, notre ami Jeff n'a qu'à vérifier l'arrêté pour sa création de ce lotissement. Dans son article, souvent nous mettons article 3 ou article B, donc on vous donne les prix de référence par mètre carré par rapport à ces lotissements. Lorsqu'on crée, à supposer qu'on crée un lotissement à Montsperry, et on crée un lotissement au niveau des Bibois, ça ne sera pas le mètre carré ne sera pas le même prix. Donc la mercuriale, l'arrêté bien sûr la mercuriale fixe le prix par mètre carré. Et donc lorsqu'il y a un terrain de 20 mètres sur 20, donc les hommes du Calas essaient un peu de voir le 20 mètres sur 20 par rapport à mètre carré, c'est le prix de référence qu'on va vous taxer lorsqu'on va vous établir le contrat de location.
Il a une parcelle à Lutembele, oui. Il veut savoir combien coûte le bornage.
Oui, une borne vous coûte 10 dollars. Nous avions, on était en partenariat avec une société qui nous fournissait des bornes.
Oui. Mais
pour le moment, il y a eu des malentendus avec la société. Donc les contrats un peu en veilleuse. Mais une borne vous coûte 10 dollars en bonne et due forme. Et les honoraires prévus pour ramener un géomètre là-bas varie entre 50 dollars et 100 dollars. Donc, c'est entre 50 et 100 dollars pour que les hommes puissent descendre et aller borner la concession.
Et il a parlé d'un ministre qui a déclaré une maison, des immeubles comme étant des biens 100 mètres. Il veut en savoir plus.
Oui, il y a. À la promulgation de la loi foncière, il y avait des dispositions qui prévoyaient à ce que. Parce que la plupart des. Souvent, c'était les expatriés qui ont quitté la République démocratique du Congo sans pour autant laisser des adresses exactes. Et le bien immobilier, c'est un bien économique qui est dans le circuit économique. Et un bien...
Il y a eu plus tard peut-être des acquéreurs.
Oui, s'il y a des acquéreurs en bonne et due forme, s'il y a des... Bon, je ne connais pas dans quel cas ils posent la question. Il serait souhaitable à ce qu'ils puissent passer dans notre office pour essayer un peu de voir sa préoccupation. Mais je donne des cas généraux.
Oui.
Donc, la plupart, c'était des expatriés qui ont quitté la République démocratique du Congo sans pour autant laisser des adresses exactes. Parce que les concessionnaires ordinaires, donc un expatrié, c'est un concessionnaire ordinaire. Ça, donc, il doit payer les redevances. L'État doit avoir quelque chose par rapport à ses biens économiques. Alors, en quittant la République démocratique du Congo sans laisser des adresses, c'était en quelque sorte des biens abandonnés. Alors, les biens abandonnés, l'article 12 de la loi française dit les biens, tous ces biens qui sont censés être sans propriétaire, donc sans maître, ces biens-là reviennent au niveau de l'État. Et s'il y a un acquéreur, effectivement, l'État lui donne ça, moyennant indemnisation, donc vous payez l'ancien acquéreur qui était là. Souvent, on le faisait pour 15 années, pour vérifier si les propriétaires ne pouvaient pas rentrer. Après les 15 années, qu'on pouvait vous établir des titres en monnaie du forme. Mais il y a eu des histoires qui se sont passées. Entre guillemets, qui n'étaient pas, bon, qui n'est pas bon à expliquer. Donc, des histoires qui se sont passées. Et il y a des arrêtés des biens sans maître au moment où des gens avaient déjà des titres par rapport à ces biens. Je dis, vous êtes là, vous occupez un bien d'un expatrié parti, vous restez là-bas pendant 10 ans, vous cherchez des voies et moyens pour acquérir ces biens-là. Mais, pouf, on vient, on prend un arrêté de biens sans maître et on vous dépossède de ça. Ça crée des frustrations. En 84, le président Mobutu a dit abroger l'ordonnance portant sur la gestion des biens sans maître. Donc, pour le moment, ces biens sont gérés, enfin, il y a toute une direction là, la direction des biens sans maître. C'est cette direction qui fait les rapports pour vérifier si effectivement ces biens-là est un bien sans maître. Et on va, la priorité, donc les droits de préemption revenaient à l'État et revenaient à la personne qui occupe les biens. Et c'est là, avec une procédure de 15 années pour qu'on puisse vous établir les titres. Donc, vous occupez ça, l'État vous donne ça, vous payez les impasses, c'est ce que nous appelons les impasses, mais vous restez là-bas pendant 15 ans pour voir si l'ancien propriétaire ne va pas rentrer. Si au cas où les 15 années, parce que l'ancien propriétaire ne rentre plus, là, on allait vous établir les titres. Ça, c'était la procédure normale, mais il y a des histoires qui se sont passées, entraînant comme conséquence que, au moins, trois ou quatrième source de conflit au niveau des affaires françaises, donc la gestion des biens sans maître.
Des biens sans maître. Voilà, il y a Jules Kabongo qui dit, comment une sentinelle, vous avez les gens doivent continuer, ce sont des sentinelles, comment une sentinelle peut vendre un terrain et l'État reconnaît même cette vente-là. Donc, et il dit, pourquoi donc on peut porter plainte contre l'État, parce que lui, il accepte qu'une sentinelle puisse vendre son...
je suis d'accord.
Mais
je veux parler sincèrement avec notre compatriote, M. Gilles Kabongo. Effectivement, ça, c'est ce que je vous ai dit au début de l'émission, c'est notre talon d'Achille. À la promulgation de la loi foncière, le législateur a fixé les autorités compétentes en matière de gestion du domaine privé de l'État. Donc, et les ayants droit coutumier ne se retrouvaient pas là-dedans. Mais l'État a prévu les droits de jouissance par rapport aux terres, donc les terres rurales. Vous avez un village, c'est vous, monsieur Jody. Ces terres qui sont dans votre village, si vous les regardez, ces terres-là, ces terres appartiennent à toute la communauté. Est-ce qu'une personne, soit-elle votre chef coutumier, peut se permettre le luxe de pouvoir vendre ces terres sans le consentement de toute la population? Mais l'État a dit, il y a les articles 374 et 384. Les droits des jouissances, il y aura une ordonnance du chef de l'État qui va organiser. Depuis la promulgation de la loi foncière, il y a eu plusieurs projets. Actuellement aussi, il y a eu plusieurs projets de projets d'ordonnance pour voir comment ces terres rurales doivent être, donc les communautés locales qui sont là doivent jouir de ces terres. Mais on ne dit pas à la sentinelle de pouvoir vendre. Voilà le rôle des ayants droit coutumiers. Ces ayants droit coutumiers sont véritablement des sentinelles.
Mais parfois, ils disent oui, voilà, même l'aval des services compétents de l'État.
Oui, voilà pourquoi nous disons
qu'on peut notre, bien laisser aller du côté de l'État.
C'est notre talon d'Achille, pourquoi nous régularisons. C'est ce que nous appelons au niveau des affaires françaises la régularisation. Nous régularisons ce que les ayants droit coutumiers sont en train de faire. Normalement, on ne pouvait pas le faire. Sur les plans de droit, on ne pouvait pas le faire. Mais il y a un problème. L'extension de la ville, les terres coutumières qui entourent la ville deviennent aujourd'hui des terres urbaines, entre guillemets. Et la politique du lotissement devait suivre vite. Mais l'État.
Ce qui n'est pas le cas. Là.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui fait que non, l'absence de l'État pour ces lotissements, ce sont les ayants droit coutumiers qui sont là et qui commettent des histoires graves. Mais c'est Jules Kabongo lui-même vient de dire que non. Il y a un cas, quelqu'un arrive, vend une terre et il vient.
Et puis il vend un autre, tout ça.
Oui, avant, quand nous sommes arrivés aux affaires, il y avait nos précédents, donc ceux qui nous ont précédés, avaient l'habitude de ne pas examiner de tels conflits pour dire l'État, je croise les bras, je ne connais pas ces histoires. Mais nous disons, à force de laisser la population comme ça, ça. Donc c'est comme si on abandonne la population.
Voilà, on peut dire qu'il y a l'impunité, quoi.
Oui,
est-ce qu'il y a déjà eu des chefs coutumiers, des droits coutumiers qui ont été.
Nous envoyons à Makala.
Il y en a.
Qu'elle nous envoie à Makala en faisant un rapport, rapport succinct au niveau du. Donc au procureur de la République pour dire ce monsieur doit être poursuivi pour ce qu'il y en a.
Bien. Alors, Benjamin Kakomanda, il a raconté l'histoire d'un monsieur qui avait des enfants. Il est décédé. Ses frères qui habitaient avec lui ont vendu la parcelle. Est-ce que les petits-enfants qui vont grandir un jour, ils peuvent venir réclamer la parcelle de leur père?
À tout moment. Voilà pourquoi je vous ai dit, et effectivement, je vous dis merci par rapport à l'émission. C'est pour sensibiliser notre population, pour ne pas... Une parcelle, vous voulez acquérir une parcelle de quelqu'un qui est déjà décédé, il faut vraiment vous prémunir de toutes les garanties. Parce que sur le plan des droits, la personne qui est décédée, c'est véritable et en droit, ce sont ces enfants-là, mineurs d'âge, mais devaient être représentés par un liquidateur. Donc normalement, le conseil de famille devait désigner peut-être l'oncle paternel là pour s'occuper des intérêts de ces. Ces enfants
qui
sont les héritiers de premier degré. Mais lui vend ses histoires. Mais dès que ses enfants vont atteindre la majorité, la personne qui a acheté, mais. Donc, il faut raisonner mille fois pour acheter une telle situation. Ça, je vous dis sincèrement, dès que. Si le conflit est porté.
Donc, ses enfants peuvent aller au bureau des affaires concernées.
Oui,
si. Il a introduit une lettre de.
Oui.
Une réclamation.
Oui. Si les défunts avaient un titre. Si les défunts avaient un titre, soit un contrat de location, un certificat d'enregistrement, bon, quelque part, il y a eu tripotage. Ce que nous allons faire, si le certificat a dépassé plus de 2 ans, nous allons demander à la justice de pouvoir annuler ce certificat qui a été établi dans des conditions. Donc avec
des vices. Dans des conditions qui ne sont pas requises.
Ah, ouais.
Bien, merci à M. Denis Aidongo, directeur chargé des contentieux au secrétariat général du ministère des Affaires foncières. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Oh,